Mondial Sport sur RFI. Martin Guez.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette dernière de l'année. Mais avant de faire la fête et de célébrer 2019, on va se détendre pour terminer 2018. Le foot anglais nous fait encore quelques cadeaux en cette fin d'année. On y reviendra dans la longueur avec notre correspondant Tom Williams qui nous livre son best-of 2018. Le meilleur de l'année en Italie également avec Matteo Cioffi. Et puis en Afrique, on se projette déjà sur la tropicale Amissa Bongo, tandis qu'outre-Atlantique. En NBA, on a rencontré Patrick Mutombo, le Congolais, entraîneur adjoint des Raptors de Toronto. Enfin, on ira faire une petite partie de billard avec Thomas Moulin, un tour sur les pelouses de rugby avec Tom Rossi et on terminerait par une petite surprise. Restez bien avec nous jusqu'au bout, on vous fait revivre un des grands moments de l'année sur l'antenne de RFI. Mondial Sport, la dernière de 2018, c'est parti. Même le dimanche, même à la veille du réveillon, les footballeurs anglais ne s'arrêtent jamais. Des sportifs raisonnables pendant cette période d'excès, mais qui gâtent leurs supporters en but. Manchester City, grâce à son succès 3-1 sur Southampton, reprend la deuxième place à Tottenham et donne encore un petit peu plus d'allure au duel face au leader Liverpool qui se profile le 3 janvier. 7 points séparent les deux équipes. Et puis tout va bien pour Chelsea et Manchester United qui s'imposent grâce à leur franchise. N'Golo Kanté pour les Blues, unique buteur du match face à Crystal Palace et Paul Pogba pour United. Pogba qui fait encore boum, nouveau doublé face à Bournemouth pour une victoire 4-1 des Red Devils. Pogba et United revigorés depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer et libérés depuis le départ de José Mourinho. Une première ligue sur laquelle on s'attarde dans la longueur. Ce soir, retour sur les grands moments de l'année 2018 avec notre correspondant Tom Williams. Bonsoir Tom.
Bonsoir Martin.
Alors Tom, vous qui avez tout suivi, tout regardé cette année 2018 de très très près, quel est le fait le plus marquant de l'année ?
Pour mon fait marquant de l'année, j'ai choisi le dernier but de la saison 2017-18, marqué par Gabriel Jesus dans la 4e minute du temps additionnel pour donner au champion Manchester City une victoire à Southampton. Le City de Pep Guardiola a complètement dominé la Première Ligue la saison dernière. Victoire écrasante, qualité de jeu incroyable, but magnifique, mais il leur manquait un exploit symbolique pour incarner leur suprématie. Ce but de Jesus, un lob astucieux en toute fin de match, a fait de City la première équipe dans l'histoire de la première division anglaise à avoir gagné 100 points dans une saison. C'était un exploit qui reflétait parfaitement sa domination.
Alors on l'a bien compris, c'est ce but de Gabriel Jesus qui vous a marqué, mais ce n'est pas lui votre joueur de l'année.
Non, et j'ai déjà dû pencher sur cette question cette année, car en fin de saison dernière, j'ai voté pour choisir un joueur de l'année pour l'Association des écrivains de football, ici en UK. Moi, j'étais sidéré par le niveau de performance de Kevin De Bruyne, le milieu de terrain belge de Manchester City, la saison dernière. Mais plus la saison avançait, plus c'est devenu impossible d'ignorer ce que faisait Mo Salah avec Liverpool. Il a fini la saison avec 44 buts. Il a produit quelques performances dignes de Lionel Messi même. Et c'était ses buts qui ont amené Liverpool en finale de la Ligue des Champions. À mi-chemin cette saison, il a marqué 13 buts en Première Ligue. Il a mis son équipe sur course pour un premier titre de championnat depuis 1990.
Alors on a le fait de l'année, on a le joueur de l'année. Ne nous manque plus que le match. Quel est le match qui a retenu toute votre attention cette année ?
Comme d'habitude, on a vu quelques matchs vraiment passionnants en Angleterre en 2018. Mais si je devais en choisir un, ce serait le match entre Liverpool et Manchester City à Anfield en janvier. City était invaincu en championnat, mais Liverpool a gagné 4-3 et montré pour la première fois qu'il savait gagner contre l'ogre de City. Leroy Sané a répondu pour City après l'ouverture du score par Alex Oxlade-Chamberlain pour Liverpool. Mais le match a totalement basculé en début de deuxième mi-temps avec 3 buts en 9 minutes pour les Reds, y compris un lob de 40 mètres au-dessus d'Ederson par Mo Salah. City a réagi en toute fin de match avec des buts de Bernardo Silva et Ilkay Gundogan, mais c'était trop tard. Un match à savourer avec une ambiance dingue.
Eh bien, merci beaucoup Tom Williams, on vous souhaite une très bonne année. On a hâte de vous retrouver en 2019 pour encore plus de matchs complètement fous en Angleterre.
J'espère, merci Martin.
On continue notre rétrospective 2018 dans Mondial Sport et on quitte l'Angleterre pour l'Italie pour continuer notre petit tour des terrains européens. Et qui dit Italie, dit Matteo Cioffi. Bonsoir Matteo.
Bonsoir, bonsoir Martin.
Alors, une saison italienne qui aura été très marquée par un match qui aura duré entre la Juventus et le Napoli, qui se sont livrés un mano à mano passionnant de fin de saison dernière.
Oui, tout à fait. Juve contre Naples a été un duel qui a vraiment relancé l'intérêt vers le calcio, visiblement troublé par la qualification ratée au championnat du monde de cet été. Un défi donc à bout de souffle, parce qu'à 5 matchs de la fin, Napoli avait réussi l'exploit d'aller gagner sur la pelouse de la Juve. Et à ce moment, tout le monde a cru que le titre était déjà dans la poche des Napolitains. Et ça aurait été le cas s'il n'y avait pas eu cette incroyable défaite face à la Fiorentina 3-0 et ensuite un nul 2 partout à domicile contre le Torino. Deux scores qui ont permis à la vieille dame de reprendre la tête du classement et à les conquérir en 7e de Scudetto d'affilée, de loin un des plus serrés de toute son histoire.
Et si on s'intéresse au joueur de l'année, Matteo, ce sera peut-être même le joueur de la décennie ou du siècle en Italie. Ce n'est pas un arrivederci, c'est un adieu. Gianluigi Buffon qui quitte l'Italie et la Juve où il a joué pendant plus de 17 ans.
Après 17 ans et 9 scudetti gagnés, en tout le gardien a disputé 640 matchs en Serie A qui font de lui le deuxième joueur de tous les temps par nombre de rencontres jouées en première division. Seulement Paolo Maldini a réussi à faire mieux avec 647 présences. C'est donc une légende du foot italien qui a quitté la scène nationale, comme l'avait fait l'année précédente Francesco Totti, deux joueurs toujours appréciés aussi presque par tous les tifosi des autres équipes, chose, disons-le, assez rare en Italie.
Et puis le fait de l'année, Matteo, c'est évidemment l'arrivée de Cristiano Ronaldo en Serie A qui a redonné, on peut dire, ses lettres de noblesse au championnat italien.
Oui, le ballon d'or qui a choisi la Serie A a été salué surtout par la presse transalpine comme une revanche pour tout un système qui a soif de ressavourer ce moment qui, à partir des années 80 et jusqu'à la fin de la première décennie des années 2000, poussait les principaux top players étrangers à choisir avant tout de jouer dans un club italien. Le transfert de Cristiano Ronaldo a été comparé par les médias, seulement pour mentionner quelques noms importants, à celui de Michel Platini, de Diego Armando Maradona, de Marco Van Basten ou de l'autre Ronaldo, le Brésilien.
Eh ben, ça fait du beau monde, mais Matteo, on va finir sur une note un petit peu plus triste. Impossible de se quitter sans évoquer la mort de Davide Astori qui a secoué tout le pays.
Oui, Davide Astori est trouvé mort le 4 mars dans le lit de sa chambre d'hôtel avant le match contre l'Udinese et a provoqué un énorme choc en Italie. Le pays a versé des larmes pour un sportif exemplaire, très aimé par tous ses coéquipiers, en général par l'opinion publique, qui l'a toujours considéré comme un homme honnête et de grande valeur sous tous les aspects. Récemment, une enquête a été ouverte à l'encontre de deux médecins accusés de n'avoir pas rendu public les examens que le défenseur avait soutenus avec eux, respectivement en 2016 et ensuite en 2017, et qui prouvaient des anomalies cardiaques qui méritaient des approfondissements du point de vue médical.
Davide Astori, on le rappelle, qui était donc le capitaine de la Fiorentina. Merci beaucoup Matteo Cioffi, on se retrouve l'an prochain.
Merci à vous et bonne année.
Allez, on va continuer à parler football dans votre mondial sport, car le marché des transferts ouvre dans deux jours l'occasion pour les clubs de se renforcer, pour certains joueurs de se relancer. Un mercato cette année un petit peu particulier, et ce soir, je suis chanceux pour en parler avec moi en studio, Alejandro Valente, le chef du service des sports de RFI. Bonsoir Alejandro.
Bonsoir Martin, bonsoir à tous.
Alors souvent présenté comme un marché d'ajustement, le mercato d'hiver pourrait être plus animé cette année, car désormais les clubs peuvent acheter des joueurs ayant déjà pris part à la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, justement, ça arrive bientôt, c'est dès février.
Oui, en fait, on pouvait toujours acheter des joueurs qui ont déjà participé à la Ligue des Champions, mais ils ne pouvaient pas changer de club en cours des saisons. Donc aujourd'hui, par exemple, si on prend un joueur qui a joué la phase des poules avec le PSG, par exemple Adrien Rabiot, et qu'il passe à Barcelone, il pourra continuer à jouer à partir des huitièmes de finale avec Barcelone. Donc ça change beaucoup, aussi bien pour les clubs que pour les joueurs concernés, car ils ne disparaissent pas, disons, de la fenêtre internationale. Et dans ces contextes, effectivement, on a cité les cas d'Adrien Rabiot, mais il y en a d'autres joueurs importants qui peuvent être tentés de changer de club, soit parce qu'ils arrivent en fin de contrat, comme c'est le cas de Rabiot, mais aussi les cas d'Aaron Ramsey ou d'Olivier Giroud, par exemple, ou de Cesc Fabregas, ou bien parce qu'ils ont peu de temps de jeu dans le club où ils évoluent. Je pense par exemple au Marocain Mehdi Benassia, qui évolue à la Juventus de Turin, où il ne joue pas beaucoup. Ou encore, on peut avoir des joueurs qui peuvent être tentés de changer de club, tout simplement parce qu'ils ont des offres très intéressantes. Et là, il y a beaucoup de jeunes Français qui peuvent effectivement espérer quelque chose. Je pense à des joueurs comme Aouar, par exemple, ou Ndombele qui évolue à Lyon.
C'est aussi un mercato, on l'a vu l'hiver dernier, par exemple, avec Saint-Etienne, qui s'est énormément renforcé, qui peut parfois ressembler à un vrai mercato estival. Et on peut penser à certains clubs français qu'on aurait bien besoin, des clubs en difficulté comme Marseille ou carrément à la dérive comme Monaco, qui auront donc besoin de se renforcer cet hiver.
Effectivement, ce sont des clubs qui vont sûrement animer le marché, que ce soit côté départ ou côté arrivée. Côté départ, on pense par exemple à Florian Thauvin, peut-être il partira pas dès cet hiver, mais on sent qu'il va tourner la page et surtout on cherche des renforts. On pense par exemple à Mario Balotelli que Marseille avait tenté de faire venir l'été dernier. Peut-être l'occasion se représentera cet hiver.
Le fameux grand attaquant au Cato Marseille.
Absolument. Et puis à Monaco, évidemment, il y a besoin des joueurs à tous les postes. Il y a plusieurs noms qui circulent. Cesc Fabregas, par exemple, ou même Pepe, l'ancien défenseur du Real Madrid, qui est actuellement en Turquie et qui pourrait être tenté par une progression de ce type. En tout cas, les opportunités ne manqueront pas et les contacts de Thierry Henry, qui est l'entraîneur de Monaco, pourraient faciliter certains choix, alors qu'un club qui se trouve dans les profondeurs du classement n'intéresse pas forcément des joueurs très en vue.
Eh bien, merci beaucoup, Alejandro Valente. On vous souhaite une bonne fin d'année. On vous retrouve l'an prochain. Plein de petites missions avec la Ligue des Champions, la CAN.
Absolument. Ce sera une année très riche et pas seulement côté mercato.
Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Et on reste en bonne compagnie avec Thomas de Saint-Léger qui nous rejoint dans ce studio. Bonsoir très cher.
Bonsoir Martin.
Avec vous, on va d'abord parler basket. Focus ce soir sur un Congolais qui pèse en NBA, la prestigieuse Ligue nord-américaine.
Alors si on vous dit RDC NBA, vous pensez tout de suite à Bismack Biyombo, pivot des Charlotte Hornets, ou peut-être à Emmanuel Moudier, le jeune et talentueux meneur des Knicks de New York, pas forcément à Patrick Mutombo. Et pourtant, cet ancien joueur a la particularité d'être le seul africain francophone à occuper un poste d'entraîneur adjoint. Il siège sur le banc des Toronto Raptors, où évolue d'ailleurs Pascal Siakam, le Camerounais, et Serge Ibaka, l'hispano-congolais. Pour l'instant, ça se passe plutôt très bien. La franchise canadienne est classée deuxième de sa conférence. Ça méritait un petit passage dans Mondial Sport. Mickaël Dacosta s'est chargé d'organiser tout ça en lui demandant d'abord d'expliquer son rôle exact au sein du staff des Raptors. Écoutez.
Je suis responsable de scouting, de préparation de match. J'assiste avec la défense. Les entraînements individuels, évidemment, nous le faisons tous, même s'il y a un département spécifique qui s'occupe de ça. Mais en tant que coach, nous avons des gars avec lesquels nous travaillons, etc. Donc, je touche un peu le tout. Ce qui est bien dans ce système, parce que le coach nous permet de travailler, d'évoluer, de nous développer en tant que coach aussi.
Il y a vous, Patrick Mutombo, congolais. Il y a chez les joueurs Serge Ibaka, ouais. Pascal Siakam, ouais. Ojenu qui est nigérian, un general manager nigérian, une autre personne du staff, Jam Alalala, qui est aussi africain. Vous vous retrouvez dans la franchise la plus africaine de NBA. Comment est-ce que ça se passe avec tous vos compères africains?
C'est une bonne chose, mais en même temps, je parle de compétences. Je n'ai pas été engagé en NBA parce que j'étais africain. Si je ne suis pas compétent dans mon travail, il y a 10 000 personnes qui sont prêtes à prendre ma position. Nous sommes là parce que, d'abord, nous sommes compétents dans notre travail. Maintenant, le fait que nous sommes africains, c'est bien parce que c'est quelque chose dont on est fier. Nous représentons le continent comme il faut. Nous jouons notre rôle de manière à faire avancer les choses sur le continent africain qui a énormément de potentiel. J'espère que nous sommes un modèle qui va inspirer d'autres jeunes, que ce soit jeunes joueurs, jeunes coachs, à aller de l'avant et voir que finalement, avec le travail, un peu de chance, tout est possible.
J'ai une question par rapport à votre expérience et la vision que vous avez sur l'évolution de l'impact des joueurs africains en NBA. Vous êtes en NBA depuis très longtemps, même si vous êtes encore assez jeune, comparé aux autres assistants coachs dans la Ligue. Ouais. Quel regard vous portez sur l'évolution de l'arrivée de ces joueurs africains NBA, de l'impact de certains joueurs comme Serge Ibaka, comme Joel Embiid? Comment est-ce que vous voyez le présent et l'avenir des Africains dans la Ligue?
Je pense que l'avenir est très, très, très positif. Parce que je vois donc, en remontant à Hakim, Dikembe, Manu Ball, etc. Et l'Afrique produit des bons joueurs. Et ça, c'est sans tenir compte du fait que, au niveau organisation, c'est pas encore ça. Donc c'est presque, j'ai envie de dire, un hasard que ces gars se retrouvent dans le championnat américain. Et on voit que la NBA se rend compte du potentiel qu'il y a en Afrique. Il y a une raison pour laquelle la NBA s'investit autant en Afrique. Parce que une fois que qu'on aura bien maîtrisé cet aspect dans l'organisation, comme on voit l'INSEP en France, en Australie, Basketball Academy ou quelque chose comme ça, une fois qu'on a ces structures, là où on peut développer les jeunes, là où on peut pourvoir aux choses les plus simples, chaussures, terrain, ballon, etc., puis on peut contrôler ça, je peux garantir aujourd'hui qu'il y aura beaucoup d'Africains qui joueront en NBA. Dans les années qui viennent. On voit déjà l'émergence de point guards, hein, des liés de distributeurs avec Emmanuel Moudier. À Houston, on a Luc. Donc, je pense que lorsqu'on aura compris qu'il faut commencer, qu'il faut développer nos jeunes à un bas âge, ce qu'il nous faut maintenant, c'est développer nos entraîneurs. Parce qu'il y a, il y a des très beaux entraîneurs qui travaillent en Afrique, mais très peu de ressources. Une fois qu'on aura comblé ces vides-là, sky's the limit. Sky's the limit.
Sky is the limit, le ciel comme seule limite, un slogan qui vous inspire, je crois, Martin. En tout cas, prochain match des Toronto Raptors de coach Mutombo dans une grosse heure contre Chicago. Ils enchaîneront ensuite dans la nuit de lundi à mardi. Ce sera face au Jazz de Utah et bien sûr, ça va swinguer.
Allez, le ciel et les étoiles, ce sera donc en 2019. Thomas, ça nous permet de parler d'un autre événement attendu au début de l'année. Retour sur la terre et l'asphalte, la Tropicale Amissa Bongo, autrement dit le Tour du Gabon.
Cyclisme, bien sûr, ce sera du 21 au 27 janvier. RFI y sera évidemment. Seront là également les meilleures sélections africaines, accompagnées comme de tradition par plusieurs équipes professionnelles européennes, dont trois formations françaises, Direct Energy, des habitués, Arkea Samsic, avec le redoutable sprinter allemand André Greipel, et enfin, des petits nouveaux, Vital Concept B&B Hotel, entité lancée l'an dernier par l'ancien coureur Jérôme Pinault, séduit par cette course, à l'époque pas si lointaine où il était encore sur le vélo. Pinault a logiquement choisi d'y emmener ses coureurs. Écoutez ses explications, c'est au micro de Maxime Martinez.
C'est la première belle course sur le calendrier. Il y a l'Australie qui est réservée aux équipes pour le Tour. Nous, on a l'opportunité de faire la Tropicale. C'est une course par étapes. L'an dernier, en début de saison, on s'est aperçu qu'on manquait de jours de compétition. On s'est empressé de trouver des solutions à cela. La deuxième chose, c'est que dès cette année, toutes les courses du calendrier, qu'elles soient l'Africa Tour ou l'Europe Tour vont compter pour le classement mondial. Donc on veut se positionner dès le départ avec des performances. Troisièmement, c'est une épreuve relevée de plus en plus, avec une très belle organisation, dans un pays chaleureux, accueillant. Moi j'aime l'Afrique, j'ai la vocation, nous avons vocation, le club, à nous développer, à aussi accueillir et attirer des nouveaux talents, notamment des talents africains, de montrer aussi à nos gamins dans nos quartiers, dans nos villes et nos villages que le vélo n'est pas un sport réservé à une certaine caste. Il est ouvert à tous et praticable par tous, et notamment en compétition.
Pour vous, c'est aussi une façon de repérer des coureurs africains, notamment, qui pourraient intégrer le club dans les saisons à venir?
Bien sûr, pour nous, c'est aller courir là-bas pour gagner, aller courir là-bas pour nous développer, nous, personnellement, nos coureurs, les coureurs actuels du club, mais aussi détecter des talents. Moi, j'avais, lors de ma première participation à la Tropicale, j'avais pu notamment apercevoir que l'Érythrée avait un très très beau potentiel, il y avait un beau potentiel dans ce pays. J'avais été battu sur une étape par Nathanaël Béran. Daniel Teknemanot faisait ses premiers coups de pédale. On le découvrait et on s'est aperçu que ça a donné de très bons coureurs. Donc oui, effectivement, on a toujours un œil sur ce qui se passe là-bas.
Vous l'avez dit, vous l'avez disputé comme coureur avec la Quick-Step notamment. En quoi cette course est une bonne préparation pour la saison?
Disons qu'elle n'est pas trop tôt dans la saison, elle est à la mi-janvier, fin janvier, donc ça permet d'enchaîner tout de suite derrière sur le calendrier européen. Elle est relevée, on y trouve un bon niveau. Elle est aussi au niveau du terrain assez difficile. C'est pas tout plat, il y a quelques bosses, et puis c'est très bien organisé. Donc on sait que on n'aura pas de galère de transfert, on n'aura pas de galère d'hébergement. On est accueilli dans les meilleures des conditions, donc c'est aussi en cela que la course est importante à nos yeux, si ce n'est importante en tout cas alléchante et attirante.
Jérôme Pinault, le manager de l'équipe Vital Concept avec Maxime Martinez.
Merci beaucoup Thomas de Saint-Léger, on se retrouve l'an prochain. Petit moment de détente à présent, on est dimanche, en pleine période des fêtes. Vous êtes peut-être en famille ou entouré de vos proches, alors quoi de mieux qu'une petite partie de billard pour terminer l'année en beauté? Mais attention, pour certains, ce n'est pas un jeu de bar, c'est très sérieux, tellement sérieux que le billard pourrait rouler jusqu'au tapis olympique. C'est en tout cas le souhait de la Fédération Internationale et de la Fédération Française pour les Jeux de 2024 à Paris. Le billard qui candidaterait comme sport additionnel, comme le sont le skate, le surf ou l'escalade pour les Jeux de Tokyo en 2020. Il va désormais falloir convaincre les décideurs que le billard est plus qu'un amusement, mais un véritable sport. Un sport auquel s'est essayé Thomas Moulin, qui s'est offert une petite partie avec des professionnels.
Jeu inventé sous Louis XI au XVe siècle et réservé d'abord à la noblesse, le billard est aujourd'hui plus populaire et universel. Florian Kohler s'est inscrit sur YouTube en 2007 pour partager ses plus beaux coups. Ses démonstrations de trick shot cumulent aujourd'hui plus d'un milliard de vues. Un succès qui lui permet de vivre de sa passion en voyageant à travers le monde.
J'ai même plus le temps de jouer au billard normal quasiment, je fais que de voyager quoi. J'ai eu la chance de visiter 40 pays pour ça. Il y a vraiment quelque chose à faire dans 40 pays quoi. C'est rare de pouvoir exporter quelque chose aussi facilement.
S'il est reconnu comme un divertissement, le billard ne l'est pas encore comme un sport à part entière. Un constat que ne partage pas Jérémy Bury, vice-champion du monde de billard français. Aussi appelé billard carambole, ce dernier se joue avec 3 billes et nécessite à haut niveau une bonne condition physique.
Le billard a vraiment toutes les dimensions, toutes les caractéristiques d'un sport, que ce soit la dimension technique, dimension tactique, dimension psychologique, la dimension physique, elle est réelle au billard. On a besoin, malgré ce qu'on peut penser, d'une bonne condition physique, d'un point de vue cardio pour gérer le stress dans les moments importants, et puis d'une bonne endurance de concentration. Cette condition physique, elle est indispensable au billard à haut niveau.
Le français évolue dans une discipline encore amateur. Seul le snooker, qui se joue sur une table plus grande et avec 23 billes, compte une centaine de professionnels. Parmi eux, le champion du monde de la discipline, l'anglais Sean Murphy. Celui que l'on surnomme le magicien confie ses rêves d'or olympique et sa joie de représenter son sport.
C'est le plus gros événement sportif. Il y a la Coupe du Monde en football, Wimbledon en tennis, mais la médaille d'or aux Jeux Olympiques, il n'y a rien de mieux dans le monde. En tant que joueur de snooker, de billard, nous n'avons jamais eu cette opportunité. Essayer de candidater pour toute la famille, c'est déjà un succès fantastique et je suis persuadé que quelque chose de bien sortira de tout ça.
Les instances du billard sont accordées sur un nouveau format de compétition qui sera testée en mars prochain à Roissy en France. Chaque équipe sera composée de 3 joueurs, un pour le snooker, un pour le billard carambole et un dernier pour le billard américain auquel nous avons presque tous déjà joué au moins une fois. Certaines règles seront adaptées pour raccourcir la durée des parties et garantir un plus grand spectacle. L'objectif aussi de ce format, répondre aux exigences du CIO, comme nous l'explique Jean-Pierre Guiraud, en charge de la candidature du billard pour 2024.
Nos avantages sont très importants au niveau du coût de la candidature, c'est-à-dire que nos infrastructures pour 2024 ne sont pas très coûteuses, donc c'est vraiment un avantage. On a une compétition qui ferait peut-être de l'ordre de 48 joueurs, 24 hommes, 24 femmes, donc clairement, on ne prend pas beaucoup de place.
Des atouts primordiaux pour se glisser dans un agenda olympique déjà bien chargé. Pour le président de la Fédération Française de Billard, Jean-Paul Sinanian, cette candidature est déjà une victoire.
Même si on échouait aux Jeux Olympiques, le billard serait gagnant dans la mesure où il serait considéré comme un sport et qu'on aurait contribué à changer l'image d'un vieux jeu de café pratiqué par des messieurs en costume fumant le cigare. Donc ça, il faut qu'on arrive à s'en débarrasser. Qu'on s'étonne plus quand on arrive dans les assemblées du CNOSF et qu'on dit « le billard, c'est un sport ». Ah oui, qu'est-ce que ça a de sportif ? Voilà.
En concurrence avec la pétanque, le squash ou encore le ski nautique, le billard doit attendre encore 2 ans avant de savoir enfin s'il est admis à la table des sports olympiques.
Reportage de Thomas Moulin en 3 bandes et 3 minutes, le tout sans faire entrer la boule noire. Bravo Thomas. Et après Thomas Moulin, Thomas de Saint-Léger, on retrouve notre 3e thé de la soirée. J'ai nommé Tom Rossi. Bonsoir Tom.
Bonsoir Martin, bonsoir à tous.
Et Tom Rossi, ça rime avec rugby. Les pros de l'Ovalie ne s'arrêtent pas pendant les fêtes en France et ça fait 9 ans que ça dure.
Oui, cela fait 9 ans que ça dure. 9 ans que les rugbymen du top 14 jouent entre Noël et Nouvel An. Et les amateurs de rugby apprécient. Ils sont 15 à 25% de plus que d'habitude à se rendre au stade pendant cette période. On l'a d'ailleurs bien vu ce week-end. Les stades étaient bien garnis comme à Perpignan hier. C'est là-bas que Clermont a reçu le titre honorifique de champion d'automne grâce à sa victoire bonifiée 37 à 16. Pas de quoi fanfaronner pour le centre clermontois Wesley Fofana. Le plus dur reste à venir.
C'est toujours bien le finir premier, ça valide un peu les 6 mois et la belle préparation qu'on a eue. Mais après voilà, par expérience, c'est pas une fin en soi et on a déjà été champion d'automne et rien à la fin, donc ça compte pas.
Surtout que derrière, Toulouse et La Rochelle s'accrochent. Ils ont eux aussi bouclé une phase aller quasi parfaite par un succès avec le bonus offensif. C'était face à Toulon et le champion en titre Castres. Les Castrais qui sont en danger 9e et loin des barragistes Bordeaux-Bègles, Lyon et le Racing. Le club francilien qui a été surclassé sur sa pelouse par de
surprenant Bordelais 40-0. C'est la quatrième victoire de suite de l'UBB. Mais le pilier Jefferson Poirot ne veut pas s'enflammer.
On est assez habitué à être bon en décembre et être complètement à côté de la plaque en janvier, février, mars. Donc nous, on va rester vraiment humble. Après, si ça doit venir, ça viendra. Mais pour l'instant, nous, on n'a jamais été dans le top 6. Et pour l'instant, c'est juste un rêve. Donc on va essayer de continuer à travailler, de rester surtout très humble.
Jefferson Poirot et Wesley Fofana étaient tous les deux au micro de Canal+. Enfin, en bas, Perpignan, qui a perdu tous ses matchs, semble condamné. Pour la place de barragiste, la lutte sera acharnée entre Agen, Pau et Grenoble.
Eh bien, merci beaucoup Tom Rossi, on se revoit l'an prochain. Et puis avant de se quitter, on va revenir sur le grand moment de l'année sportive, la Coupe du Monde de football que vous avez pu suivre sur RFI. Une Coupe du Monde qui n'a pas souri aux équipes africaines, toutes sorties dès le premier tour, mais qui a souri aux Bleus de Didier Deschamps. La France qui a accroché une deuxième étoile sur son maillot juste au-dessus du cœur, après une finale pleine de rebonds. Remporté 4-2 face à la Croatie. Allez, on remonte le temps, on y retourne, on ferme les yeux. Nous revoilà le 15 juillet dans la grisaille de Moscou. Stade Loujniki, 80 000 personnes. France-Croatie, c'est reparti.
Le voilà, ce coup franc. Il est assez excentré. Il prend des pas d'élan, la frappe et les buts. Attention, il faudrait qu'il le soit. On récupère la balle, il va y avoir une frappe et but. L'égalisation croate. On vous l'a dit qu'elle pouvait revenir très vite. C'est Perisic. Moi qui l'a été dégagé lentement ce ballon. Beaucoup trop lentement. Et Perisic qui le récupère tranquillement, qui se la met sur le pied gauche. Et à 15 mètres, dans une forêt de joueurs, qui vient trouver le petit filet. Et voilà la Croatie qui égalise, qui revient à un partout.
Le pénalty qui va être tiré très très rapidement par Antoine Griezmann. Le coup de sifflet, il prend son élan, le buteur français. C'est parti, et c'est dedans. Et 2-1 pour l'équipe de France. Le pénalty transformé par Antoine Griezmann. Le contre-pied parfait. Le ballon tiré sur la droite de Subasic qui était parti côté gauche. L'équipe de France mène 2-1 face à la Croatie. Antoine Griezmann récupère au niveau du point de pénalty derrière pour Paul Pogba. La frappe de Pogba, elle est contrée, la deuxième chance, la frappe. Et le but de Paul Pogba. La frappe, une dégauche à l'entrée de la surface qui crucifie Subasic sur son côté droit. La France met 3-1 face à la Croatie dans cette finale de Coupe du Monde. Attention, attention, Mbappé, la frappe de Mbappé. Les buts de Kylian Mbappé.
Vous les aurez reconnus, Antoine Grenier, Olivier Pron, et les frissons et l'émotion. Une émotion qu'on est heureux d'avoir partagée avec vous. On espère vous avoir fait vibrer, rire et même pleurer, parce que c'est aussi pour ça qu'on aime le sport. On vous remercie d'avoir vécu ces instants avec nous et on vous promet de continuer en 2019 avec la Coupe d'Afrique des Nations, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde féminine. Les occasions ne manqueront pas. On vous souhaite d'ailleurs un petit peu en avance une excellente année 2019. Merci à Hélène Avril à la réalisation et à l'année prochaine.